de résumer, résumer un parcours qui est long, puisque comme vous voyez, j'ai de la bouteille. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de la bouteille? Ça veut dire déjà un peu avoir des ans, mesurer la longueur des ans. Donc j'ai la longueur des ans pour moi, et j'ai commencé, n'étant plus du reste tellement jeune, ma vie religieuse à l'abbaye, dans une abbaye bénédictine, et j'ai ressenti après des années l'appel à vivre dans l'abandon à la Providence. C'est pas facile, hein, s'abandonner à la Providence. C'est-à-dire, j'ai pas de ressources, j'ai pas de projet autre que celui de suivre le Seigneur là où il demandera d'aller. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait des études en Sorbonne, donc comme a dit Edel. Et en fait, je me suis formé à l'aumônerie catholique de Sorbonne. Ça s'appelait le Centre Richelieu. Et c'était le père Lustiger qui était directeur du Centre Richelieu. Donc je m'honore aussi d'avoir été accompagné par lui, d'avoir été suivi par lui. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Et entre autres, eh bien, nous avions une vie étudiante, bien sûr, mais aussi une vie avec des temps de prière, évidemment libres, mais où il était possible d'aller. Et puis il y avait aussi tous les temps liturgiques de l'Église qui étaient célébrés avec profondeur dans les églises avoisinantes du quartier latin. Et puis nous avions l'évangélisation, et déjà, bien avant le renouveau charismatique, on allait dans les rues et on allait dans les cafés et on allait dire aux gens « Le Seigneur est vivant pour toi, réveille ton cœur, réveille ta foi et reçois la joie de la foi. » Donc on a été vraiment prophétique. Et le père Lustiger, qui est devenu ensuite, comme vous le savez, cardinal, a été prophétique. C'est-à-dire tout ce qui ça anticipait un peu des accents du concile, mais sans excès doctrinaux, mais au contraire en le racinant dans le mystère de l'Église. À l'abbaye, eh bien, j'ai passé des années à essayer d'approfondir la parole de Dieu. Et donc, ce qui m'est le plus marquant dans ma vie, c'est d'avoir passé beaucoup de temps à approfondir le mystère de Dieu, la parole de Dieu. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est approfondir. Je pense, du reste, que, soit dit en passant, si on veut croire, il faut aussi veiller autour de la parole, veiller autour du mystère. De même que, étant étudiant, nous étions à l'aumônerie et on avait aussi tout un approfondissement de la parole et des conférences avec des théologiens connus à l'époque. Et puis après, à l'abbaye aussi, des temps nombreux de méditation, de prière autour de la parole. Ceci est un accent et c'est une nécessité. Si on veut vivre avec le Seigneur, il faut approfondir sa parole, il faut approfondir son mystère, ce ne sont pas des choses évidentes. Il faut aussi cultiver les dons du Saint-Esprit. Vous avez dit tout à l'heure, merci, c'est formidable, cultiver les dons du Saint-Esprit. Et, autant que faire se peut, vivre de l'Esprit-Saint, vivre d'émotion de l'Esprit-Saint. Donc c'est ça qui me marquait dans ces années d'abbaye. Par contre, ce qui me gênait un peu, mais c'est qu'il y avait aussi beaucoup de préoccupations à l'époque de, ça c'était pas chez les laïcs, c'était chez les religieux, eh bien de communier au monde économique, aux quêtes de l'athéisme, etc. Des choses qui étaient qui avait tendance à nous détourner de l'attention à ce qui est central dans la foi. Il y a eu une tendance comme ça pendant plusieurs années à, c'est ce qu'on appelle peut-être l'ascendance mondaine, ou je ne sais quoi, l'ascendance du monde, comme dit Saint Jean dans l'Évangile, à se disperser pour des choses de la société, mais qui avait tendance à nous retirer un peu de la, de l'attention au mystère de Dieu, à la personne de Dieu, aux personnes divines, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est à cette époque qu'il y a eu des mises en cause et des ébranlements dans l'Église dont on se remet progressivement maintenant. Alors au bout d'un certain temps, j'ai enseigné la philosophie, j'ai enseigné la théologie, j'ai enseigné la liturgie, j'ai amené des livres, là, que j'avais fait un livre sur la liturgie, parce que je peux en offrir à certains qui s'y intéressent. Et puis, ensuite, j'ai demandé à mon supérieur s'il était adéquat que j'aille vivre l'abandon à la Providence. L'abandon à la Providence, ça veut dire, eh bien, se livrer entièrement, aussi bien au plan matériel, mais au plan spirituel encore plus, à la volonté de Dieu. Alors, on m'a dit quelquefois, il a été dit, il y avait un monsieur qui m'a dit l'autre jour, « Ah ben vous, vous êtes à la campagne parce que vous aimez le calme, vous aimez la tranquillité, vous aimez la nature. » À vrai dire, c'est des choses qui ne m'ont pas effleuré. Et je me réclame pour ça de Charles de Foucault. Vous connaissez Charles de Foucault quand même? Il a dit, et c'est ce que j'essayais de dire, pas avec la même franchise peut-être que lui, peut-être pas avec la même vigueur que lui, eh bien je me suis le Seigneur là où il me demandera d'aller. C'est ça qui était mon motif. Alors on m'a dit, bon oui, mais toi, enfin, tu as des idées un peu bizarres. J'avais pas d'idée préconçue, mais j'avais simplement le désir d'obéir à Dieu, quoi qu'il en coûte. Et on m'a dit que j'étais un peu utopique, et c'était un peu utopique parce que ça consistait après 17 ans de vie rangée quand même, enfin en communauté, avec des enseignements, des temps de prière réglés, etc. Eh bien, à partir à l'aventure, mais pas l'aventure humaine, l'aventure du Seigneur. Et en fait, cette aventure, elle m'a conduit dans un presbytère de village, à côté d'une église de village, et ceci par deux fois, parce que j'ai changé d'endroit, en vivant dans la prière et dans l'abandon à Dieu, et dans l'accueil aussi des personnes qui étaient vagabonds, des personnes qui étaient sur les routes, etc. J'en avais quelquefois 3, 4, 5, 6. Et j'avais pas de ressources aussi, je vivais de la Providence. C'est une expérience intéressante, ça. Vivre de ce que Dieu donne, sans avoir de réserve. Du reste, je suis toujours au même point, au même degré. Je ne suis pas avancé d'un pouce pour ça, je suis toujours démuni de toute réserve et je prends ce que Dieu me donne au jour le jour. Mon intuition, c'était de me consacrer à Dieu, encore plus que je l'étais dans la vie religieuse, et puis de vivre aussi ce qu'on appelle dans le renouveau les charismes. J'avais rencontré le renouveau, et j'avais envie de vivre aussi cette grâce du renouveau qui me semblait une grâce exceptionnelle. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est que la grâce du renouveau, puisque vous la vivez, je pense. Mais c'est de retrouver justement l'impulsion spirituelle qui a créé l'Église et qui a permis aussi l'évangélisation de l'Église au cours des temps. Alors vous me direz, mais elle a toujours été sainte, l'Église, elle a toujours été animée par l'Esprit. Oui, mais quel est le mais du reste? Le mais, c'est que c'est une institution humaine, l'Église, et donc elle a tendance à se scléroser, elle a tendance à s'agrandir, elle a tendance à oublier que l'esprit est derrière et qu'il et la pousse sans cesse. Elle a tendance, l'église, elle a tendance à s'installer. Et on en a des témoignages historiques aussi, où quelquefois il y a eu des installations importantes. Par exemple, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a marqué, mais enfin qui est connue par l'histoire, justement. Eh bien, c'est un homme qui était prêtre, qui s'appelait Robert d'Arbrissel, au XIIe siècle. Et voilà qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui avaient le désir de retrouver la ferveur des évangiles. Il a fallu de la ferveur aux apôtres pour mettre en route l'Église. Il en a fallu. Et à toutes les époques de l'Église, eh bien, il y a eu des mouvements de ferveur, des mouvements de réveil, comme on dit chez les protestants, où on a voulu retrouver eh bien, le souffle vivant, le souffle vital, l'élan vital qui a donné naissance à l'Église. Et là, Robert d'Arbrissel, c'était au XIIe siècle, eh bien, il est parti sur les routes, comme beaucoup ont fait, vous savez que les franciscains l'ont fait un siècle après, partir sur les routes sans argent et en quémandant leurs ressources. Il faut savoir que ça existe et que c'est ça qui a été l'impulsion vitale pour l'Église. Donc Robert d'Arbrissel marchait sur les routes et mendiait dans les villages, mendiait son pain. C'était un peu ennuyeux parce qu'il y allait avec tout un cortège d'hommes et de femmes qui avaient été guéris par la prière et qui avaient été libérés des esprits, des mauvais esprits, par aussi la prière de Robert d'Arbrissel, par la prière de cette communauté. Donc il devait vivre en pèlerin, allant de village en village, et puis en réclamant, en demandant la nourriture aux habitants lorsqu'ils passaient, lorsqu'ils traversaient tel ou tel village. Et puis les évêques se préoccupent de cette troupe de gens, de ce peuple, de cette partie qui est vagabond, qui vagabonde. Alors ça les inquiète. On savait aussi qu'on n'aime pas le désordre dans l'Église. Donc quand il y a du désordre, on s'inquiète. Et puis c'est le travail aussi des évêques de mettre de l'ordre. Et là on lui demande de se stabiliser et de créer un monastère. Alors comme il y avait des hommes et des femmes, il y avait même des enfants, etc., et bien de s'installer tous dans une maison chrétienne où ils vivraient le partage de l'Évangile. Alors l'Évangile, c'est le partage. L'impulsion de l'Évangile, l'impulsion de l'Église, c'est le partage. Il n'y avait qu'un cœur avec une âme, il ne faisait qu'un cœur avec une âme, il mettait tout en commun, disent les actes des apôtres. Vous vous rappelez les actes des apôtres qu'on dit, ils mettaient tout en commun, ils partageaient le pain tous ensemble. C'est ça l'intuition, qui était une intuition tout à fait simple. Et donc Robert d'Arbrissel s'est installé en Maine-et-Loire, aujourd'hui c'est à Fontevraud, alors qu'il venait du centre de la France, d'autres lieux, et il s'est devenu après une abbaye fastueuse, puisque il y a eu des bâtiments importants et que avant la Révolution, c'était l'abbaye royale de Fontevraud. Là, on pense au petit vagabond qui avait démarré, et après c'était l'abbaye royale avec des filles de princes et de rois qui a occupé cette abbaye. Elle avait gardé de Robert d'Arbrissel au départ le fait que c'était une abbaye avec des états de vie mélangés, comme on retrouve dans le renouveau. C'est-à-dire qu'il y avait les hommes et les femmes d'un côté, et ils vivaient ensemble. Et il y avait aussi une spécificité de cet ordre de Fontevraud, c'était que c'était la baisse qui était la supérieure de tout le monde. Ce n'était pas les hommes qui étaient les plus. On ne ferait même pas ça aujourd'hui. Donc ils avaient le sens aussi au Moyen-Âge de l'honneur que l'on devait rendre à la femme. Cette mère, cette supérieure, était supérieure des hommes et des femmes. Ceci pour dire que à chaque époque, il y a eu une réjouissance pour revivre cette intuition des actes des apôtres à toutes les époques, et puis qu'il y a eu aussi, eh bien, un alourdissement. Et l'alourdissement, il se fait parce qu'on devient une institution importante, et on a des biens importants, et on a aussi des sécurités matérielles, et aussi spirituelles, bien sûr. Alors, moi, puisqu'on me demande un travail, un témoignage, eh bien, je n'ai rien de tout ça. Je n'ai rien de tout ça, on n'a pas de bâtiments importants, sinon qu'ils sont trop grands pour nous, qui ne sommes pas très nombreux. Et puis, on n'a pas d'argent, et puis, etc., etc. C'est la condition pour que l'œuvre soit féconde. C'est pas par hasard que le Seigneur nous dit de nous débarrasser de toute sécurité, c'est pour que son œuvre soit féconde. En tous les cas, c'est ma conviction. Et à chaque fois, du reste, dans l'Église aussi, il faut revenir à cette disponibilité de départ. Donc moi, eh bien, je m'efforce de me rendre disponible au Seigneur. Vous êtes bien... Il vous est facile de comprendre que j'ai beaucoup d'efforts à faire pour le bien faire, mais enfin, je m'efforce en, déjà, m'obligeant au plan matériel, eh bien, à faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur, marcher dans la confiance. Amen, alléluia. Marcher dans la confiance. Alors, ce renouveau, eh bien, j'y crois toujours, bien sûr, même si je le vis depuis des années, il a commencé pour moi par l'invitation qui m'a été faite, et là, je ne l'ai pas demandé, mais quand j'étais ermite, puisque j'étais ermite pendant 5 ans, on m'a demandé de constituer une équipe avec l'exorciste. Alors, l'exorciste, ça fait un peu peur, on fantasme sur l'exorcisme, il n'y a pas de quoi fantasmer. J'ai donc prié pendant des années avec l'exorciste, parce que l'évêque de l'époque, dans le diocèse où j'étais, eh bien, pensait que c'était une question importante. Comment notre pays de France a-t-il été évangélisé? Eh bien, il y a eu beaucoup d'évangélisateurs, mais enfin, l'expert en la matière, le super expert, c'était qui à votre avis? Le super expert de l'évangélisation en France?
Saint-Martin.
Il y en a eu avant Saint-Martin, bien sûr, puisqu'il y en a eu depuis le Seigneur Jésus.
Saint-Irénée.
Comment?
Saint-Irénée de Lyon.
Oui, aussi. En tout cas, Saint-Martin a fortement marqué. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est parce que, eh bien, avant c'était la persécution. Donc, il faut aussi la persécution hein, pour vivifier la foi. Enfin, bon, faut pas la chercher beaucoup. En tous les cas, pendant 3 siècles, c'est la persécution. En Europe, et notamment en Gaule, les chrétiens sont persécutés. Aujourd'hui, nous avons l'Église librement, mais pendant 3 siècles, eh bien, nous étions menacés. Si nous nous retrouvions ici, eh bien, il fallait faire très attention parce qu'il pouvait débarquer une troupe de militaires et qui nous coupait le cou à tous. Hein? Et il n'en restait pas un seul en vie. C'est comme ça que les chrétiens, nos prédécesseurs, ont vécu leur foi. On ne veut pas s'empêcher de penser qu'il faudrait quelquefois aussi réactiver la foi dans nos pays et qu'une petite persécution, parce qu'il ne faut pas souhaiter des grosses persécutions, eh bien, nous dynamiserait. On voit le Vietnam, et dans le Vietnam, les chrétiens sont vraiment chrétiens. Hein. Sur les masses, il y en a des masses qui se préparent pour être baptisés, etc. Et pourquoi? Et bien parce qu'ils sont contrariés. C'est une foi hautement contrariée, très contrariée. Hein? Ben, je ne sais pas, tu as été au Vietnam pour... En tout cas, quand il s'agit de se préparer pour le baptême, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes qui se présentent pour recevoir la formation. Chez nous aussi. Hein? Mais enfin, c'est plus laborieux. Voilà. Donc, Saint-Martin, eh bien, il a fait... Alors, c'était la persécution, et puis voilà qu'en 330, et 350 aussi, mais 330, le christianisme devient religion officielle. Et donc, on peut pratiquer la foi dans notre pays, et en Europe entière, dans tout l'Empire, parce que c'était tout l'Empire à l'époque. Et alors, il y a des communautés qui se créent, et toujours des communautés avec toujours cette optique vivre la communion fraternelle dans l'abandon à la providence et dans la modicité des ressources matérielles. Ça a toujours été l'impulsion de départ. Et puis, Saint-Martin évangélise, on va dans de nombreux villages. Alors, le village où Saint-Martin est allé, il s'appelle Saint-Martin de je ne sais quoi. Nous, à côté de chez nous, il y a un village qui s'appelle Recours-Saint-Martin. C'est à tous les coups un village où Saint-Martin a posé les jalons du christianisme. Alors, comment il faisait pour poser les jalons du christianisme? Eh bien, il arrivait dans un village et il demandait aux gens de déposer leurs amulettes. Voilà, on va faire un grand feu. Et aujourd'hui, on se voit comme ça, on aurait peur. Mais enfin, c'est comme ça qu'il faisait. Et c'est raconté par son biographe. Et donc, on faisait un grand feu, on brûlait toutes les amulettes, on renonçait, au nom du Seigneur, au culte païen, et on recevait le baptême sur le champ. Il n'y avait même pas de préparation au baptême, on n'avait pas le temps à l'époque. Et Saint-Martin instituait une paroisse, Recours-Saint-Martin, comme chez nous, voilà, Recours-Saint-Martin. Et puis après, il allait dans d'autres villages, et c'est comme ça qu'il a évangélisé. Donc l'intuition de base de l'Église, des actes des apôtres, eh bien, c'est d'abord qu'il faut la communion fraternelle, hein, c'est-à-dire mettre le partage dans la vie fraternelle. On met tout en commun et on décide de partager le pain eucharistique et vivre dans la louange. Partager les ressources, vivre dans la louange. Et puis, deuxième aspect des commencements, et qui sont mentionnés, bien sûr, dans l'Évangile, eh bien, on libère des esprits. On libère des esprits. Ce qui, à mon avis, on fait un peu prudemment, parce que, évidemment, c'est pas commode de toucher à ces choses-là, c'est pas très appétissant, disons. Hein. Les esprits, c'est un peu un monde un peu putride, c'est pas tout à fait avenant. Mais il faut y mettre la main dedans. Et nos prédécesseurs l'ont fait. Et aussi Saint Benoît, qui était le fondateur des bénédictins, l'a fait grandement. On a des témoignages. On voit que dans les évangiles, je l'ai dit à mon évêque il n'y a pas plus tard qu'il y a 4 jours, je lui dis, ben, il faudrait retrouver l'évangélisation par les moyens de l'évangile. Il ne faut pas être très intelligent pour dire ça. Il faut retrouver l'évangélisation par les moyens de l'évangile. C'est absolument évident. Et donc, quels sont les moyens de l'évangile? Eh bien, libérer les esprits. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué tout au long dans les évangiles. Par contre, je sais pas comment on fait, mais quelquefois on entend les textes à l'église, et puis on fait l'impasse sur ces choses-là, parce qu'on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a toutes sortes d'arguments pour balayer la chose. Et puis la deuxième chose, guérir les malades. Guérir les malades, imaginez comment ça marche. Vous avez des assemblées, l'assemblée eucharistique, et c'est dit dans les actes des apôtres aussi, et vous aviez des personnes qui étaient guéries, et bien qui témoignaient, et il y en avait de plus en plus qui voulaient venir à l'Eucharistie parce qu'elles étaient libérées, parce qu'elles recevaient la guérison. Moi, dans notre paroisse, je les aime beaucoup, ces prêtres, mais c'est quelquefois un peu obscur. Alors, une fois, il y avait une personne qui était sur une chaise roulante. Et alors, elle était au premier rang, elle suivait bien la messe, c'était une personne jeune qui avait 32-33 ans, était mère de famille, elle avait deux petits garçons, et il y avait son mari à côté d'elle. Et je me disais, mais quand même, elle est là, devant l'autel, et puis personne ne prie pour elle. Ben, on dit quoi quand on voit une personne malade? Ben, on dit, ben, elle est malade, et voilà. Bon, moi, je vais soigner, elle va à l'hôpital, elle a des soins, enfin, on ne peut pas lui faire. Et puis voilà, et puis c'est tout. Alors, c'est pas comme ça que pensait Jésus, puisqu'on en parle autrement dans l'Évangile. J'ai entendu, il n'y a pas tellement longtemps, une personne qui disait, ah oui, et Jésus priait. Non, Jésus aimait les malades. Non, Jésus n'aimait pas les malades, il n'aimait pas la maladie, et il aimait tellement peu qu'il priait pour que les malades soient guéris. Alors on dit aussi, je ne sais pas pourquoi on dit ça, on dit, oui, j'ai entendu 10 fois, si pas plus, oui, mais enfin, il est guéri, c'est pas tous. Eh bien écoutez, l'Évangile nous dit qu'il est guéri, c'est tous. Alors on excuse, il faut savoir ce que je... Pour savoir où est la parole de vérité. C'est pas moi qui invente ça, c'est écrit dans les Évangiles. Il est guéri, c'est tous. Et c'est normal qu'il est guéri, c'est tous, parce que s'il n'avait pas guéri, on dit, ben, c'est un faux guérisseur, c'est un faux sauveur. Parce que sauveur et guérisseur, c'était le même mot. Sauver, c'était guérir. Guérir, c'était sauver. Et en plus, c'était sauver le cœur et l'âme. Voilà. Donc, il faut retrouver, et c'est l'intuition, bien sûr, pour le mot charismatique, retrouver les moyens par lesquels on a évangélisé au début de l'Église. Et à toutes les époques, on a revécu cela. Et on a, grâce à Dieu, on le sait, mais enfin, le renouveau de vie. Il y a, à Paris, il y a Saint-Nicolas des Champs. Et ce qui me touche, c'est que je porte dans mon cœur, je fais ce que je peux, moi, je prie pour les guérisons, je prie pour les libérations. Il y en a qui se produisent, bien entendu, heureusement, parce que sinon je n'aurais même pas le droit d'en parler. Mais bon, je ne sais pas si certaines aboutissent. En tous les cas, Thierry Abad, puisque c'est Thierry Abad qui a annoncé les paroles de connaissance, eh bien il m'a dit, je ne connaissais pas, il est venu au prieuré, et il m'a dit, en voyant dans la chapelle, en voyant le Christ, il y a un Christ là, qui est peint sur la voûte, eh bien j'ai reçu le charisme de paroles de connaissance pour les assemblées. Alors, je suis bien content, parce que c'était la grâce que l'on avait au prieuré, et lui qui l'ait reçu, et qui après il puisse la produire à Saint-Nicolas-des-Champs, le chapeau, merci Seigneur, c'est une belle grâce. Et voilà, donc, moi mon désir, alors je ne vis pas avec tout le monde, parce que si j'ai pas fini mon histoire, j'ai cette personne qui était devant l'autel, et qui était sur une petite voiture. Alors, je me disais, ben alors, personne ne plaît pas, alors. Personne n'a le droit. Le poste, on pouvait quand même dire, peut-être, le prêtre pouvait peut-être dire, eh bien, nous avons aussi notre sœur ici, notre amie, hein, qui vient régulièrement à la messe, eh bien, prions spécialement cette fois-ci pour elle, et puis peut-être en faisant une prière de guérison des malades. Non, rien, on n'a rien fait. Ce n'était peut-être pas opportun, moi je ne suis pas un curé, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Enfin, un soir, au bout de 6 mois, quand je trépillais, je célèbre à l'hôtel avec le prêtre, je trépillais, et puis voilà que, à l'ouverture, il y avait cette personne qui était à l'office. Et tout le monde, une amie, a senti qu'il fallait prier pour elle. Alors on a prié pour elle, elle était sur sa petite voiture, et puis le lendemain, on avait une procession au fond du parc, à une chapelle dédiée à Notre-Dame de Liesse, qui est à 2 ou 3 kilomètres, et puis j'ai vu de mes yeux vus, après la prière, qu'elle a marché sans voiture, et qu'elle a fait l'aller de retour. Donc si ça fait 3 kilomètres, 3 et 3, 6, ça fait 6 kilomètres. Elle a fait 6 kilomètres sans canne, rien. Le lendemain. Et alors, je suis revenu à l'église et j'ai dit, j'étais plus content quand même. J'ai dit à un monsieur de l'église de chez nous, ben voilà, hein, voilà ce qui s'est passé, on a prié, et voilà, elle a marché. On lui dit, bon, alors il savait pas. Moi j'ai compris, j'ai dit que si on en parlait, eh ben on dirait que on n'en sait rien. Enfin. Donc il ne peut pas y avoir de guérison. Il n'y a de guérison que s'il y a un témoignage autour de la guérison. Et louange, merci Seigneur, car tu l'as remis sur pied, évidemment. Mais si on est on passe à côté. Mais en tous les cas, on a prié pour elle, elle a marché, et ensuite elle a quitté la paroisse, et donc on n'a plus vu. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Mais en tous les cas, elle a marché, et elle était depuis sa toute enfance sur une voiture, et elle n'avait plus de voiture, elle a pu quand même faire au moins, parce que j'étais témoin, des 6 kilomètres. Alors, voilà. Donc, à mon avis, il faut commencer par là. Alors, ben je fais avec les gens. Alors, près de chez moi, il y a des familles de gens de voyage. Donc, moi, je prends les gens qui viennent, je pense qu'ils viennent. Hein. Les gens du voyage, ben, ils demandent la guérison. Ben, je peux vous dire que l'autre jour, il y a quatre mois, il y a 3 gars, les gars des malabars, les gens du voyage, et j'arrive un soir, j'avais un peu peur, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont, ils veulent me dévaliser. Non, ils ne voulaient pas me dévaliser, ils disent, on a un problème, on a un de nos copains, il a été en boîte cette nuit, le vendredi, il était à 3h du matin, il s'est retourné dans un champ, et il a eu une fracture du crâne, il est à l'hôpital, depuis 5 jours, Et puis, les médecins sont très inquiets parce que ça fait 5 jours qu'il n'a pas repris connaissance. Ça sera très difficile pour lui de retrouver la marche. Il va falloir une rééducation. Et si très vite il ne reprend pas ses esprits, eh bien peut-être qu'il sera paralysé toute sa vie. Voilà. Alors je leur ai dit, ben, écoutez, si vous avez la foi. Alors on ne lui voit pas aller, c'est là, on fait une oui, on a la foi. Alors on dit, asseyons-nous et prions le Seigneur, tout simplement. Alors on a prié le Seigneur, je ne les connaissais pas, ce gars-là, je ne les avais jamais vus. On a prié le Seigneur et on a dit, guéris ce garçon par ton nom, Seigneur Jésus, comme dans les actes des apôtres. Guéris par ton nom, Seigneur Jésus. Et on a intensifié notre prière. Quelquefois, on est touché dans sa sensibilité quand on prie. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la prière, comment est-ce qu'on prie. Il s'agit ce qui va dire, Seigneur, prie, c'est pas un rire, il faut que ça soit une prière intériorisée. Une prière de l'intérieur, une prière de conviction. Voilà. Donc il faut aussi apprendre à mettre toute sa conviction dans la prière. Ça s'apprend aussi. Hein? On peut dire les prières, on peut réciter les prières aussi comme ça. On peut en réciter des kilos et des kilomètres. L'important, c'est qu'il y ait l'intensité de la foi. Et on nous dit dans les évangiles, et aussi dans la Bible, ayez la foi. Donc, qu'on ne dise pas, moi j'ai la foi qui me tombe dans le bec, et je ne peux pas faire autrement. Eh bien, si, on peut faire autrement. On peut intensifier sa foi, mobiliser sa foi. Donc, c'est à ce moment-là, j'ai situé mes forces. Je ne sais pas, on ne peut pas comparer avec d'autres, on ne sait pas comment notre foi par rapport à d'autres fois. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure quantitative. Par contre, il nous est dit, le Seigneur dit, ayez la foi et intensifiez votre foi. Et donc, on a intensifié notre foi pour cet homme. Et puis, à un moment, il y a eu des signes sensibles. Ça arrive aussi dans la prière. Je ne le raconte pas pour vous faire du spectaculaire, mais pour dire que c'est des choses qui arrivent. C'est que j'ai senti un chamboulement dans ma tête. Et j'avais un peu de douleur, etc. J'ai eu l'impression que on me secouait fortement. Alors j'ai dit, ah, Seigneur, je comprends. On t'a prié, tu me fais comprendre que tu écoutes nos prières. Hein? Ça arrive. Ça arrive pas toujours, mais ça arrive. Et puis ensuite, j'ai continué à prier, et puis j'ai senti une paix qui venait dans mon crâne. Donc, j'ai compris que le Seigneur me permettait de communier. Il y a beaucoup de manières qui nous signifient que nous sommes vraiment en prière avec la personne. Et là, eh bien, j'avais comme une communion à ce que cette personne que je ne connaissais pas avait vécu. Et puis après, un instant après, j'ai senti une paix, j'ai senti que tout se remettait en place. Mais ça a été à l'intérieur de moi-même, ça a été une grâce de Dieu. Le Seigneur nous fait quelquefois aussi ressentir les choses que l'autre ressent, quelquefois. Il n'y a pas de technique toujours la même, c'est pas mécanique, c'est spirituel. Mais enfin, le Seigneur nous donne des signes pour nous dire, ben voilà, tu es en bonne voie. Et donc, ressentant cela, j'ai dit à mes compagnons, eh bien voilà, votre ami est guéri. En général, je ne dis pas ça, hein. Mais j'étais un peu rassuré et puis un peu conforté par ce que j'avais ressenti. Donc j'ai dit, il est guéri. Eh bien, vous me croirez si vous voudrez, ben, il a été guéri sur le champ. Il était à l'hôpital à 70 km. Il est à l'heure même, il est sorti du coma et il était complètement guéri. Il n'avait aucune séquelle ni de la marche, il n'a pas pu apprendre à marcher. Ni... Alors 8 jours après, il était présent à notre prière du samedi soir. Et alors je lui dis, comment allez-vous ? Il dit, mais ça va très bien. Je pars normalement, je marche normalement, tout est en ordre. Alors je lui dis, j'espère que vous voulez remercier le Seigneur. Il dit, oui, c'est pour ça que je suis ici. Ça lui faisait peut-être 10 ans qu'il n'avait pas été dans l'église. Bon voilà, il va dire, remercier le Seigneur, parce qu'il avait conscience qu'il avait vécu un miracle. Voilà. Alors je lui dis, bah, c'est bien, et maintenant, vous n'allez plus dans les boîtes, vous êtes père de famille, vous avez 2 enfants, vous avez mieux à faire que d'aller courir, les routes la nuit, et pour aller voir, et pour vous. Voilà. Alors je l'ai revu, le reste dernièrement, et il était complètement, c'est un homme qui était transformé. On sent qu'il s'est fortifié, qu'il s'est pacifié. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui viennent me demander la guérison. Et quelquefois, ça ne se produit pas. Hein? Quelque fois ça se produit et quelque fois ça ne se produit pas. Ça se produit toujours. À chaque fois qu'on demande la prière, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Alors, on a tous la possibilité de prier pour les malades. Ce n'est pas un charisme réservé, puisque ce sont les moyens qui sont utilisés par le Seigneur pour convertir. Alors, c'est à la disposition de tout le monde. Tout le monde peut le faire. Alors, il ne le fera pas de la même manière que moi. Moi, je me suis lancé un peu. C'était audacieux. Mais enfin, il faut aussi quelquefois des audaces. Quelquefois, quand on est poussé, il faut se lancer. Mais s'il faut, et ça tout le monde peut le faire, eh bien, c'est se fixer sur une personne, tout particulièrement, et puis, eh bien, prier pour elle, pour qu'elle guérisse, et jusqu'à ce qu'elle guérisse. Et moi, ce que j'ai expérimenté, puisque je suis dans cette voie depuis 30 ans, après ce que j'ai dit, je suis sur cette voie depuis 30 ans, eh bien, je n'ai pas rencontré de personne avec laquelle on ait prié plusieurs fois qui n'était complètement restauré. Voilà. Donc, il faut le faire. Il faut le faire parce que évidemment, la prière est bénéfique. Je pense que vous en êtes sûr. Donc, le bénéfice de la prière, on ne sait pas comment il va être, comment il va se concrétiser, parce que cela, ça appartient à Dieu. Mais par contre, il se concrétise toujours, et dans un mieux qui va jusqu'à le bien-être. Oui, vous voulez dire ?
Oui, je voulais vous poser la question suivante. L'idée, il faut prier jusqu'à ce que la personne soit gagnée. Est-ce dire que... Parce que certains vous diront, oui, mais si on a vraiment la foi, c'est pas la peine de prier plusieurs fois. Dieu est au courant de ce qu'on désire.
Oui, vous savez, c'est saint Augustin qui disait, si on répète nos prières, selon les répètes, les prières, hein, tous les jours, tous les jours, et vous pouvez l'indiquer aussi, mais nous, on répète l'office, c'est 4 heures d'office tous les jours, et on répète les mêmes prières, et on les répète, et on les répète. C'est pas que Dieu est sourd, parce qu'il a mis longtemps, mais c'est que nous sommes lents à croire. Et ça, c'est ce que dit aussi l'Évangile. Et donc, on a besoin de malaxer notre cœur pour qu'il devienne perméable au Saint-Esprit. Et en plus, depuis le péché originel, eh bien, nous sommes sceptiques. C'est-à-dire, on dit oui, bon, vous avez qu'à voir. Les doutes sur la guérison, ils se sont reproduits dans l'Église. Hein. Si vous parlez à certaines gens, comme mon monsieur, je lui dis, mais cette femme s'est levée d'une petite voiture, alors je voulais m'en témoigner pour vous, il m'a dit, Alors, on a des doutes. En fait, la guérison se produit quand on a l'assurance que ce que l'on demande, c'est écrit dans l'Évangile, que ce que l'on demande va se produire. Si vous êtes sûr que ce que vous demandez va se produire, cela se produira, c'est dit par dans l'Évangile, je ne sais pas où, mais de Saint Matthieu, dans Saint Matthieu. Hein? Mais par contre, on doit répéter les prières, et les répéter beaucoup, eh bien pour lutter contre le scepticisme. Moi, dans la communauté où j'étais, qui est une grande communauté bénédictine, où j'étais pendant 17 ans, il y en avait peut-être 3 qui croyaient en la guérison, et tous les autres religieux, ils disaient, oh, nous sommes. Du reste, on disait quoi? Qu'est-ce qu'on disait? On disait tout le temps, eh bien, les guérisons, les libérations, c'était valable pour démarrer l'Église, c'était la thèse. Démarrer l'Église, et bien maintenant, on n'en a plus besoin, maintenant, on a la foi et on a les sacrements. Ben, c'est ça qu'on disait, et on le dit encore. Et je l'ai entendu dire de mes oreilles. Or, ces temps, c'est des temps nouveaux quand même que nous avons à vivre, eh bien, nécessite que l'on prenne en main l'évangélisation, et l'évangélisation, elle ne se fera que par les moyens qui sont les moyens de l'évangile. C'est presque un truisme que de le dire, mais enfin, c'est vrai, on se dit qu'on est bête de devoir répéter ce truc-là, mais enfin, c'est évident, c'est par les moyens. Par contre, il y a des complications parce que les moyens, c'est-à-dire chasser les esprits, on a eu tendance à dire, pendant des années, et c'est justement ça, en cela qu'il y a aussi un changement, il y a des changements, beaucoup de changements grâce à Dieu, et beaucoup d'approfondissements. On a eu tendance à dire, bah oui, mais enfin, à l'époque de Jésus, on appelait ça les esprits, mais enfin maintenant, on a des médicaments, on a des interventions. Mais moi, je constate, puisque je fais ça depuis des années, que les personnes ont bien des esprits. Et que, on l'avait dit, oublié chez les catholiques. Il n'y avait même plus d'exorcistes dans les diocèses. Et que maintenant, eh bien, on le fait par, sous l'impulsion des évangéliques, des pentecôtistes, des baptistes, etc., qui, eux, le faisaient. Et pourquoi ils sont si nombreux en Amérique du Sud et en Brésil, etc., ils abandonnent l'église catholique pour aller dans les églises évangéliques. Parce que ils sont libérés dans les églises évangéliques. Et il faut que nous-mêmes, nous fassions la même chose, puisque c'est inscrit aussi dans notre tradition, aussi bien que dans la nôtre. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vit, et c'est une grande joie, parce que quand une personne a été libérée d'un esprit, un esprit malin, ou de plusieurs esprits, eh bien, vous savez, elle est vraiment libérée. Et c'est une vie nouvelle pour elle. Et on n'a pas besoin, après, de lui raconter les choses du catéchisme. Elle les connaît par cœur. Par le cœur. Parce qu'elle a rencontré le Sauveur, et donc, tout ce qui est de la foi lui est accessible, directement accessible. Et nous avons une sœur qui a été baptisée de l'âge que Marie-Agnès connaît, puisque Marie-Agnès est au lac de notre communauté. Tout en vivant à Paris, elle est rattachée à notre communauté. Elle nous aide aussi à exercer les charismes dans nos retraites et nos sessions. Hein, elle a été fidèle. Et tu vois, je te remercie parce que tu peux m'appuyer dans le ministère. Elle travaille au Grand Palais, donc juste à côté. Voilà. Alors moi j'habite à Bétaouchlot, dans un pays crotté, et elle travaille juste à deux pas d'ici. Voilà. Alors je disais, oui, Myriam a été, c'est une sœur qui est avec nous, et qui était musulmane du reste, et qui s'est convertie. Elle s'est convertie et je l'ai baptisée, mais je ne l'ai pas convertie, moi. Elle était déjà convertie. ça aurait été un petit suspect que c'est à ce moment-là qu'il a plongé dans le bain. Non, elle a demandé à recevoir le baptême. Donc je lui ai conféré le baptême, de la fête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Elle était, pour pas lui répéter, hein, parce que peut-être qu'elle n'aimerait pas, elle était fortement alcoolique. Quand elle est arrivée, elle venait de la rue, et elle était, tous les 3 mois, 4 mois, je la retrouvais ivre-mort. Je pensais que je n'étais pas prêt dans le moine, j'étais dans une communauté confortable, à être confrontée à ces choses-là. J'étais confronté à des violences en recevant des gens de la rue, en recevant des drogués, des voyous, etc. Quelquefois, je suis passé pas loin de la pointe du couteau, plusieurs fois. En tous les cas, avec elle, j'étais confronté à des moments d'ivresse vraiment confondants et qui me. J'étais à certains moments en me disant, mais comment on va s'en sortir? Par contre, le Seigneur l'a complètement restauré. Et sans qu'elle fasse aucune démarche, quand vous savez ce que c'est qu'un alcoolique, c'est quand même très très difficile de se libérer de l'alcoolisme. Eh bien, par la foi, après le baptême, Elle a été entièrement libérée de tout alcoolisme, alors qu'elle était alcoolique depuis l'âge de 13 ans. Elle avait 33 ans, elle avait 20 ans d'alcoolisme. Elle était complètement restaurée par le Seigneur. Voilà. Etc., etc. Donc on pourrait en raconter des centaines dont on a été témoin, des centaines de délivrances, des centaines de libérations, des centaines de guérisons, et cela, eh bien, tout simplement en croyant. En croyant le plus possible. On ne croit pas assez. Moi, ma souffrance, c'est de me dire je ne crois pas assez, parce que si je croyais suffisamment, eh bien, j'aurais encore plus de résultats et de fruits. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Tu pourrais dire quelque chose, ajouter quelque chose?
Ajouter quelque chose, c'est descendre dans cette profondeur du cœur. Ah. Et en fait, il n'y a pas de mots. Tous les mots MOX s'en vont au fur et à mesure. Donc, c'est indicible. Ce que je suis aujourd'hui, je dois vraiment à cette rencontre par le Seigneur avec cette communauté. Ma communauté qui est devenue ma communauté, ma famille, là où je vais grandir, où je vais renaître. Il nous faut renaître d'en haut, il nous faut renaître de l'esprit. Et c'est là que je vais vivre aussi ma renaissance. Vraiment. Avec mes frères, mes sœurs, Ephraim. Et puis avec ce que nous allons vivre. Ce que nous allons vivre. Ce que Ephraim vient de dire vis-à-vis de Myriam. Myriam avait eu un désir très fort de venir passer quelque chose de vacances. Elle allait passer chez sa marraine, c'était tranquille, mais elle voulait les venir passer à Paris. Et je me souviens que c'était une période très difficile, trembleuse, hein, toi-même, tu me disais, Ephraim. Et puis voilà, dans la confiance. Pour revenir sur cette maladie, elle me dit, coupez-moi goûter, elle a craché aussitôt. Elle fait faire moi goûter parce que juste une peau de pierre, tu vois, elle a craché aussitôt. Voilà. Et cette semaine, c'était très fort parce que nous étions très proches l'une de l'autre. Voilà, et donc il n'y a pas de mots pour le dire. Il n'y a vraiment pas de mots pour le dire. C'est remettre, hein. Ouais. Ouais.
Alors, je pense que ce que tu dis, je suis d'accord. Avec ce que tu dis, c'est-à-dire que la foi, c'est aussi un chemin d'approfondissement.
C'est ça.
Et que on part au départ avec un certain nombre d'hésitations, un certain nombre d'incertitudes, un certain nombre de questionnements. Et du coup, on ne s'avance pas dans cette voie de délivrance, d'abandon, parce qu'on n'a pas la force de l'Esprit Saint qui... nous rend une vigueur intérieure, qui nous donne une vigueur intérieure.
Oui,
c'est le problème du renouveau, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour nous-mêmes, eh bien, c'est de faire renaître cette flamme de l'esprit à l'intérieur de nous-mêmes pour qu'il n'y ait plus de fléchissement.
C'est ça.
Et c'est ça notre...
Et on l'a oublié, parce que si on l'oublie, si on met je ne sais où, eh bien, et cet esprit ça, nous l'avons depuis notre baptême, parce que notre Père du ciel s'est complu en nous. Alors,
oui, ça, on peut dire que le... Alors, c'est peut-être la dernière des choses que je voulais dire, c'est que c'est aussi lié à ce qu'on appelle la mystique, c'est-à-dire à la conversion du cœur.
Ouais,
c'est-à-dire que il ne s'agit pas aussi de dire, ben les apôtres, alors on a prié pour les malades, mais il faut aussi que le cœur soit complètement transformé par l'esprit pour que, justement, ces demandes soient effectives, soient couronnées d'exaucement.
Absolument.
Couronnées d'exaucement.
Absolument, frère. Parce qu'on est de plus en plus intime, et on a envie d'être encore plus intime. Et dans cette intimité, on a mal. Quand un petit bout du corps a mal, ben le corps entier a mal aussi. Et c'est dans cet état d'esprit d'intimité. Voilà. Donc on est liés les uns aux autres. Et le salut de l'autre bout du monde nous intéresse aussi. Et ça aussi.
Alors, il y a... on dit... J'ai marqué... Oui, merci, d'accord. On dit que... de l'âme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. Voilà, c'est Saint-Thérèse. Non, c'est Élisabeth de la Trinité qui était récemment canonisée. Et c'était son message. Prendre conscience du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui habitent en nous. C'est ça le cœur vivant, c'est le cœur habité par le Saint-Esprit. Alors, c'est une réalité, mais c'est une réalité dont il faut prendre conscience.
C'est immense.
Et qu'il faut consciemment, si vous voulez, assumer à l'intérieur de nous-mêmes pour que, justement, notre prière soit efficace. Parce qu'il faut que la prière soit efficace. Hein, il ne s'agit pas de se dire, je fais des prières, et puis, il faut qu'elles servent à quelque chose, sinon ça ne sert à rien. Non, les prières, c'est vivant. Si elles ne servent pas.
Et si c'est pas
excusez-moi.
Merci pour tout ce témoignage formidable. Alors, il y a très peu de temps pour questions. Et donc, je vais donner justement pour deux questions pour la réponse. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un qui veut poser la question, c'est le temps.
Je voulais savoir comment on fait pour faire les prières.
Venir de
votre paroisse, vous êtes
quelle paroisse? Alors,
qu'on
dit à chez nous? Oui. Ah, ben ça, c'est une vieille idée. Hein. Par contre, on est très petit, hein. Alors, je vous dis, c'est peut-être la grâce qui vous est faite si vous êtes très petit.
Il y a un train, c'est pas.
Il y a pas de. On peut venir le samedi, par exemple.
C'est pas de Gare de l'Est. Il y a un train direct jusqu'à Château-Thierry. Et là, on peut aller, on appelle.
On viendrait vous chercher. D'autres questions aussi, là, vous avez des, on vous laisse des papiers, puis on a l'adresse. Enfin, c'est vrai. Là, je ne fais pas de la réclame pour ça, parce que.
Moi, j'ai une question.
Comment?
J'ai une question, si vous permettez.
Oui.
Alors, moi, je connais bien le milieu charismatique évangélique et catholique, et moi, et je me demandais. Justement, comment l'Église catholique, parce que tout ce que vous avez dit, pour moi c'est très clair, c'est que l'Église de France se nécrose dans sa pensée, et que justement la foi, c'est, ça vient du Seigneur, ça vient pas de la pensée des hommes, mais de vivre par l'Esprit.
Et ça, c'est pour ça que Marie-Élias disait qu'il nous faut naître dans l'eau.
Alors quand vous le dites au clergé, qu'est-ce qu'ils disent?
J'essaie de ne pas critiquer parce que.
Non, c'est pas une critique.
Parce que chacun fait ce qu'il peut. Ouais. Mais il faut bien dire que quelquefois, ils sont un peu éloignés, je dis ça, sont un peu éloignés de cette prise de conscience que, eh bien, il y a un renouveau, un réveil nécessaire, un réveil par ses moyens. Et ces moyens, et je vous dis, c'est ce qui commence à se poindre. Ce que je dis là, je l'ai dit à l'évêque, que nous avions un nouvel évêque, qui était aussi Père de Paris avant, et je lui ai dit, il n'y a pas plus tard que 4 jours, il m'a dit, c'est exactement ça. Il faut retrouver les moyens par lesquels l'Évangile a été proclamé. Il ne suffit pas de proclamer l'Évangile. C'est quelquefois dans les sessions, je demande aux gens, je leur dis, comment est-ce qu'on évangélise? Alors il me dit, en disant la bonne parole. Je lui dis, si vous dites la bonne parole et que rien ne se produit, alors qu'est-ce qu'on en fait? Si vous dites par exemple à quelqu'un de lui, mais Jésus est sauveur, et c'est ton sauveur, et puis moi je suis dans la panade, et j'ai l'état dans lui, et j'ai l'état de. Je suis dans une famille où on se suicide de père en fils, etc. Alors, la plus de la route, il est sauveur en quoi, il est sauveur. Voilà. Alors, ma question, c'est que on commence à prendre conscience de ça, mais c'est toujours une reprise de conscience. À tous les temps d'Église, une reprise de conscience. Il faut une reprise aujourd'hui pour que. Enfin, moi, c'est ma conviction. J'ai donné ma vie pour ça, donc j'y crois. Hein, De toute façon, à chaque fois qu'une personne se convertit, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. C'est à chacun de le dire. Mais le Seigneur passe. Hein, c'est quand même ça qui se produit. Conversion, il y a le passage de la grâce dans la vie d'une personne et qui fait qu'elle est renouvelée et qu'elle est un autre humeur. Alors, ils le vivent aussi, mais ils le vivent sans oser. Il y a toute une pudeur qui est venue du rationalisme peut-être héréditaire en France, cartésien, qui a été un peu relayé ces choses-là, mais il faut qu'elles reviennent, qu'elles soient remises en vigueur. Et peut-être que la preuve, c'est que l'évêque, il est quand même bien passé pour. C'est lui qui m'a dit, mais c'est ça, c'est exactement ça. Il y a 4 jours. Donc il est bien d'accord. Par contre, je sais que l'exorciste du diocèse où je suis, lui, il n'y croit pas trop. Enfin, il sera suivi par un autre qui y croit davantage.
Vous avez d'autres questions? J'ai une question, en fait. On va finir avec ça. Pour l'exorcisme et le discernement, comment on discerne le mal?
Le discernement?
Oui. Comment on peut discerner le mal?
Alors là, il a raison, Eden. S'il faut discerner, donc c'est tout ça aussi. Alors on m'a dit aussi dans certains coins où je me suis trouvé, ou dans les endroits où je faisais des retraites, ben nous, on a pu l'expérience du discernement. Même des gens qui avaient des responsabilités importantes, ben il faut remettre en vigueur le discernement spirituel, c'est ça. C'est comme le dit le pape, il y a le pape qui est jésuite, vous savez que le pape est jésuite, et que les jésuites sont experts en discernement. C'est pas eux qui l'ont inventé, mais enfin. Et le pape insiste sur le fait qu'il faut discerner les esprits. Donc ça s'appelle le discernement des esprits. Et comment les discerner? Ben, par la prière, hein, c'est en priant avec une personne. Souvent, avec des personnes qui sont prises par des mauvais esprits, souvent, pas toujours, mais souvent, quand on commence à prier, eh ben, l'esprit s'agite. Alors là, on a tout de suite vu, parce que elle se trémousse. Après, les cas les plus graves, eh ben, ils nous crachent à la figure, ou ils nous sortent des imprécations ou des gros mots. Alors là, on sait que c'est pas le bon esprit. Que le grand vous dit, votre cœur, on aura ta peau. Bon, merci à vous. Alors, je dis à ce moment-là, ah ben j'ai compris. Alors, mais dis-le moi aussi, je te connais. Alors, bon, on se connaît. Oui, c'est comme ça, en général. Quelquefois aussi, c'est autrement, c'est-à-dire, ça ne se voit pas, mais dans l'intuition, c'est une lumière qui nous est donnée par le Saint-Esprit, nous avons les mots, parce qu'il faut aussi, quand on chasse un esprit, il faut le nommer. Il faut le nommer. Alors, quelquefois, les mots nous sont donnés, les mots même des esprits nous sont donnés. Et souvent, ils s'enchaînent l'un à l'autre, alors on a la chaîne, et c'est toujours par le nom de Jésus que l'on chasse les esprits. Enfin, on pourrait parler longtemps du discernement des esprits, mais le discernement, il se fait par l'accompagnement, par la prière, et dans la prière, en général, on reçoit. Alors, on a reçu une autre indication, j'avais amené ma Bible, mais la Bible, quelquefois, nous donne aussi une indication. Quelquefois, on prend la parole, et la parole parle précisément de l'esprit. En tous les cas, si on se met en disposition de faire cela, eh bien, l'Esprit Saint va nous aider, va nous épauler, va nous éclairer. Hein? C'est ça qui est formidable. On va pas rester dans la patauger. Il faut se lancer. Puis, par contre, ce que je vous dis, c'est que j'ai remarqué que les personnes qui se sont livrées à la prière de façon régulière, pas 50 fois, 3, 4, 5 fois, eh bien, toutes ont été complètement libérées. Hein. C'est ça qui m'a frappé, on me dit, mais. Alors pourquoi on ne prie pas, pour les personnes pour qu'elles soient libérées, mais par contre, c'est assez complexe, parce que une personne humaine, c'est complexe, donc ça peut aussi se réfugier ici ou là, ça peut être. Et puis, il y a aussi des liens héréditaires. C'est-à-dire, par exemple, je ne vais pas vous faire peur, mais j'ai rencontré, on a une idée de suicide. Bon, d'où ça vient? Eh bien, quelquefois, c'est un esprit héréditaire. On a ça de père en fils, on veut suicider de père en fils. Donc, il faut rompre aussi l'enchaînement de cet esprit suicidaire. Moi, j'ai connu un monsieur comme ça qui voulait se suicider, son père s'était suicidé, son grand-père s'était suicidé. Et bien, j'ai rompu le lien de suicide et il ne parle plus jamais de suicide, ce monsieur. Donc ces prières sont hautement efficaces. C'est pour ça que moi, ça m'aime. Quelquefois, ça m'énerve un peu parce que je me dis, mais pourquoi on est si prudent pour user de ces prières alors qu'elles sont vraiment utiles et efficaces. Alors, dans la super efficacité, eh bien, il y a quelque chose qui est. Alors, je dis aux gens, mais vous pouvez le faire vous aussi. Il faut dire comment le faire, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont des cauchemars. Et les cauchemars, ce sont des esprits démoniaques. Et vous allez voir le psychologue, le psychiatre, machin, les trucs, et ça ne donne rien, on leur donne des calmants, ils sont assommés, etc. Et vous faites, là, surtout avec les enfants, hein, ça, donc, vous leur dites, par le nom de Jésus, que soit chassé de ton cœur et de ton esprit l'esprit de cauchemar, au nom du Seigneur Jésus, par l'intercession de la Mère de Dieu, par l'intercession de l'Archange Saint-Michel, de tous les saints, faites un « Je vous salue Marie », à 99,9% l'esprit est parti. Et les mères me disent « Mais il avait tout le temps des cauchemars et maintenant il avait des nuits très très agitées. » Alors vous rendez compte, un enfant qui a pendant 5 ans, 6 ans qui a des cauchemars, il est perturbé dans l'école, il est perturbé dans ses relations, il est perturbé dans son évolution psychologique, et c'est bien dommage. Voilà. Alors que ça pourrait être supprimé. Moi, je l'ai fait de nombreuses fois, et à chaque fois, les mères m'ont remercié en disant, mais voilà, il a un sommeil paisible, là, je n'ai plus jamais d'avoir des cauchemars, etc. Donc, ça marche à tous les coups. et on se dit que c'est quand même malheureux de devoir, faire 50 observations chez 50 thérapeutes et de n'arriver à rien. C'est vrai, c'est...